un auteur, une nouvelle.
Des histoires courtes racontées par des amoureux des mots.
Les ans, à la même époque, les vacances sont finies. Et à moins qu'on ne se décide à faire quelque chose contre ça, on est sûr que ça va recommencer. Mais le gouvernement, qui s'occupe d'école, paraît-il, au lieu de se borner à y aller lui-même, veut y faire aller les autres. Tout va mal.
Ce sont les mots de Boris Vian dans les Chroniques du Jazz, et donc qui annonce la reprise.
La rentrée, c'est notre rentrée, nous aussi.
La rentrée sous le soleil.
Et qu'est-ce qu'on fait à la rentrée quand on est petit ?
Eh bien,
on va à l'école.
On va à l'école. Et qu'est-ce qu'on fait à l'école ? Il y a les premières évaluations et on fait une petite dictée.
Dictée, n'est-ce pas, Dominique ? N'est-ce pas, Mireille ?
On se rappelle beaucoup.
On se rappelle.
Alors, en cette rentrée 2024, nous allons vous proposer un petit exercice pour vous remettre en forme après l'indolence liée à la chaleur de l'été.
Oui, toute relative.
Voilà,
oui.
C'est ça, voilà. Parce qu'on n'a pas eu quand même très chaud, mais bon. Et cet exercice, bien sûr, bien est la fameuse dictée redoutée par tant d'élèves. Alors, mais nous allons évidemment vous dire
d'où vient cette dictée,
qui est à l'origine de cette dictée. Eh bien, il s'agit de l'impératrice Eugénie, la femme de Napoléon III. Elle, pour ceux qui ne se rappelleraient pas, hein, on situe les personnages. Donc elle réunissait tous les ans dans le château de Compiègne, en plus de la cour habituelle, eh bien, des écrivains, des savants, des artistes. Et c'est à sa demande que cette première fut écrite et dictée en 1857 par Prosper Mérimée, afin de distraire la cour. Napoléon III aurait fait 75 fautes, l'impératrice 62, Alexandre Dumas fils 24, Octave Feuillet 19 et Metternich fils, ambassadeur d'Autriche 3.
Oui, il y a une sacrée différence quand même là. Alors on peut peut-être rappeler que Metternich était donc le fils de... Non. Que Metternich était ambassadeur d'Autriche et il a aidé Eugénie à fuir de la France après la chute du régime impérial en 1870. Et Octave Feuillet, c'était un romancier dramaturge très en vogue à l'époque. Et l'impératrice a même joué un rôle dans l'une de ses pièces intitulée « Les portraits de la marquise ».
Waouh !
Ah ouais,
ça devait être passionnant.
Tout un programme.
Madame la marquise, ses écuries brûlaient pas, non ?
Non.
Pas le feu au château. Donc, à l'annonce des résultats, Alexandre Dumas se serait tourné vers Metternich pour lui demander « Mais quand allez-vous, prince, vous présenter à l'académie pour nous apprendre l'orthographe ?»
Fayot.
Il y a toujours des faillots.
Hein.
Alors, maintenant, ce qu'on va vous proposer, c'est d'ouvrir grand vos oreilles, de prendre vos crayons si vous le souhaitez, et d'écouter cette fameuse dictée de Prosper Mérimée que Philippe va avoir la gentillesse de nous lire tout de suite.
Que je vais lire avec une certaine lenteur quand même, parce que le texte est quand même un brin alambiqué.
Ah oui, puis un peu ardu quand même.
Le voici. Pour parler sans ambiguïté, ce dîner à Sainte-Adresse, près du Havre, malgré les effluves embaumées de la mer, malgré les vins de très bon cru, les cuisseaux de veau et les cuisseaux de chevreuil prodigués par l'amphitryon, fut un vrai guépier. Quel que soit et quelque exigu qu'ait pu paraître à côté de la somme due, les arts qu'étaient censés avoir donné la douairière et le marguillier, il était infâme d'en vouloir pour cela à ses fusiliers jumeaux et mal bâtis, et de leur infliger une raclée alors qu'ils ne songeaient qu'à prendre des rafraîchissements avec leurs co-religionnaires. Quoi qu'il en soit, c'est bien à tort que la douairière, par un contresens exorbitant, s'est laissée entraîner à prendre un râteau et qu'elle s'est crue obligée de frapper l'exigeant marguillier sur son omoplate vieillie. Deux alvéoles furent brisées, une dysenterie se déclara suivie d'une phtisie et l'imbécilité du malheureux s'accrut. « Par Saint-Martin, quelle hémorragie !» s'écria ce bélitre. À cet événement, saisissant son goupillon, ridicule excédent de bagages, il l'a poursuivi dans l'église tout entière. Donc je précise que j'ai découvert que « cuisseau de veau » s'écrit « E-A-U ». Pour s'en rappeler, il faut se dire que ça s'écrit comme le « A-U » de veau. Et que pour le reste, « cuisseau » s'écrit « O-T » à la fin. Oh. Voilà, déjà un sacré piège. Je ne savais pas ce qu'était une douairière. C'est donc une veuve qui reçoit une réserve d'argent à la mort de son mari. Et le marguillier, c'est la personne qui tenait les registres paroissiaux ou par extension plus tard, qui était chargée de gérer les biens de l'Église. Voilà quelques petites précisions.
Voilà, bah merci beaucoup de tout.
Et le bélitre, Philippe ?
Le bélitre. Ah. Savez-vous ce qu'est un bélitre ?
Alors, on connaît le bélâtre, mais bélitre...
Un bélâtre bélitre, tu disais. c'est un vaurien. C'est une expression un vieillie.
Oui, voilà. C'est plus tellement utilisé.
Non, mais maintenant, on l'utilisera. Voilà. Espèce de bélitre.
Bon, bah merci pour toutes ces précisions. Alors, c'est vrai que... Lorsqu'on l'instituteur, le maître, comme on disait,
maître,
le maître d'école, lisait sa dictée, il mettait au tableau les mots compliqués,
les noms propres,
le nom de l'auteur, pour. Alors, en parlant d'auteur, eh bien, on va vous parler un peu de Prosper Mérimée. Donc, il est né le 28 septembre 1803 à Paris. Il est mort en 1870 à Cannes. Il est écrivain, historien, archéologue. Il est issu d'un milieu bourgeois et artiste. Et il fait ses études de droit avant de s'intéresser à la littérature et de publier en 1825 des textes, en particulier des nouvelles, dont Carmen.
Qui se passe en Andalousie.
Voilà, Bizet en a écrit quelques notes là-dessus. Ou encore Colomba.
Encore, c'est le thème de la vendetta, les guerres de vengeance entre familles corses.
Et donc, qui vont le faire connaître. Alors, il a écrit plein d'autres choses. Il lui valent d'être élu à l'Académie française en 1844. Il a également traduit en français certaines œuvres de Tourguenieff et de Pouchkine, donc des grands auteurs russes.
Oui, finalement, on est dans le thème de notre émission, puisque c'est un auteur de nouvelles aussi.
Ben voilà.
Ce Mérimée.
Mais qui sont un peu longues quand même. Donc, pour lire en une séance, c'est trop. Voilà. Alors bon, je vous propose de faire une petite pause musicale en écoutant Julien Clerc et Jeanne Chéral qui interprètent une chanson de notre cher...
Ce cher Serge.
Serge, voilà, je vais zozoter. donc intitulé « En relisant ta lettre ».
Jeanne, en relisant ta lettre, je m'aperçois que l'orthographe et toi, ça fait deux.
C'est toi que j'aime.
Ne prends qu'un M.
Par-dessus tout, ne me dis point.
Il en manque un.
Que tu t'en fous, je t'en supplie.
Point sur le I.
Fais-moi confiance. Je suis l'esclave.
Sans accent grave.
Des apparences. C'est ridicule.
C'est majuscule.
C'était si bien. Tout ça m'affecte.
Ça c'est correct.
Au plus haut point. Si tu renonces.
Comme ça se prononce.
À m'écouter. Avec la vie.
Comme ça s'écrit.
J'en finirai pour me garder.
Ne prends qu'un dé.
Tant de rancune. T'as pas de cœur, y a pas d'erreur.
Ah là, y en a une.
J'en mourirai.
Mais pas français.
Ne comprends-tu pas? Ce sera ta faute. Ce sera ta faute.
Aya n'en a pas. Moi, je te signale que Gardénal ne prend pas deux. Mais n'en prends qu'un, caché au moins, n'en prends pas deux. Ça te calmera, et tu verras, tout retombe à l'eau. Cafard les pleurs, les peines de cœur, oh, dans l'eau.
Oui, tu peux redire, parce que j'avais pas remis le son.
C'est beau le OE dans l'eau, l'eau oui, hein, de cœur. C'est du Gainsbourg.
Alors, à l'occasion du bicentenaire de la naissance de Prosper Mérimée, Bernard Pivot a composé une nouvelle dictée de Compiègne qu'il a lue le 28 septembre 2003 dans la salle des gardes du château de Compiègne. Château supposé donc être l'endroit où avait été lue la première dictée. Et donc, dans cette dictée, C'est Napoléon III qui s'exprime d'outre-tombe dans la dictée de Pivot. Alors, quelqu'un veut bien la lire, celle-là ?
Bon, ça serait bien Dominique, ça.
Ah, d'accord.
Moi, Napoléon III, tu vas te prendre pour l'empereur.
Voilà, pas de problème. Moi, Napoléon III, empereur des Français, je le déclare solennellement, aux ayants droit de ma postérité et aux non-voyants de ma légende, mes 75 fautes à la dictée de Mérimée, c'est du pipeau. De la désinformation circonstancielle, de l'esbrouffe républicaine, une coxigrue de hugolien logoréique. Quel que soit et quelque bizarroïde qu'ait pu paraître la dictée, ses tournures ambiguës, sainte adresse, la douairière, les arts versés et le cuisseau de veau, j'étais maître du sujet comme de mes 37 millions d'autres. Pourvu d'antisèche par notre très cher Prosper, Eugénie et moi, nous ne sommes plus à glisser ça et là quelques fautes. Trop sans doute. Plus que le cynique prince de Metternich, à qui ce fiefé coquin de Mérimée avait probablement passé copie du manuscrit. En échange de quoi ? D'un cuisseau de chevreuil du Tyrol.
Il y a de l'humour. Hein. Alors moi, il y a un mot qui m'a quand même... qui m'a interloqué, c'est coque-cigrue. Alors j'ai cherché, ce mot a été employé pour la première fois par notre bon Rabelais. Coque-cigrue, ça veut dire baliverne, absurdité, et le mot viendrait de l'union du mot coque, grue, cigu. Bon, pareil, on l'emploiera maintenant.
Voilà, c'est oui. Pas facile forcément à caser, mais...
évident.
Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est d'écouter la dictée proposée par Bernard Pivot, mais en 1983, voilà. Alors, on va l'écouter. Oups.
Je vais procéder à la relecture, assez lentement et en vous donnant la ponctuation. La littérature à l'estomac. En hommage à Julien Gracq, je vous le rappelle. Entre mon gîte et la Bibliothèque nationale, virgule, je suis souvent saisi d'une fringale irrépressible, point. On a beau dire, virgule, les nourritures intellectuelles ne sauraient remplacer le boire et le manger, point. Quand le corps crie famine et que les leitmotivs de la faim surgissent continuellement, virgule, ce n'est la lecture ni de Racine, ni de La Fontaine, ni de Chateaubriand qui peut apaiser une poche stomacale rendue exiguë par le jeûne et l'abstinence. Point à la ligne. Quel martyr que de devoir, virgule, à jeun, virgule, lire des récits de pique-nique extra, virgule, de l'IP sublime et d'agape excellemment arrosée, point d'exclamation. Les festins littéraires font saliver et endêver les futurs agrégés sans le sou, point. Je me rappelle les goûters de mon enfance, virgule, quand mon père me rangeait parmi les fanatiques de la fourchette, les ogresses et les sybarites, point. Puis le temps des vaches maigres est arrivé. Aujourd'hui, virgule, je suis parfois si obsédé par la faim que, virgule, penché sur les trésors de la Bibliothèque nationale, virgule, je les confonds avec ceux de la gastronomie, deux points. Manuscrits médiévaux et fricandos, virgule, palimpsestes minoens et courbouillons, virgule, in-folio et solilès, virgule, ainsi que les culs de lampe historiés et les cancoyottes très parfumés, virgule, les incunables et les paix de nonnes, virgule, les petits livres et les petits beurres, point à la ligne. Écrirai-je un jour l'autobiographie qui, virgule, dût-il m'en coûter, virgule, retracera la route qu'on m'avait assurée être la plus facile, virgule, racontera ma jeunesse qui s'est tantôt cherchée, tantôt fuie, virgule, qui eût aimé s'empiffrer, virgule, qui s'est défendu de souffrir, virgule, qui s'est révolté, virgule, et dont les privations ont exaucé mon âme, point d'interrogation. Final.
On est un peu à la messe.
Oui, là, ça résonne l'écho, voilà.
Ah, la cancoyotte, hein, pour écrire tous ces mots-là, il faut s'accrocher quand même.
On aurait peut-être fait autant de fautes que Napoléon III.
Oui,
ah oui, là, oui, là, il y avait quand même beaucoup de mots difficiles. Hein, oui. Voilà. Alors, juste pour rendre un petit hommage à Bernard Pivot, donc c'est un journaliste français, un écrivain, critique littéraire, animateur et producteur d'émissions culturelles télévisées. Donc, il est né le 5 mai 1935 à Lyon et décédé il y a quelques mois, hein, le 6 mai 2024, à Neuilly-sur-Seine. Il est d'abord journaliste au Figaro littéraire, qu'il quitte en 1974, après avoir été rédacteur en chef. Pivot fonde le magazine Lire. Il lance à la télévision l'émission littéraire Apostrophe, qu'il présente de 1975 à 1990 et qui reste la référence en matière de culture à la télévision. Il anime ensuite l'émission Bouillon de culture de 1991 à 2001 et il crée des championnats d'orthographe et des dictées qui remportent un immense succès populaire. Il est élu en 2004 à l'Académie Goncourt et il en est le président de 2014 à 2019.
Oui, quelle longévité télévisuelle, hein. Ça fait quand même 25 ans d'émissions littéraires, et ce qui est quand même un peu un record. Moi, j'ai noté une très jolie phrase de Pivot qui disait « Offrez des livres, ils s'ouvrent comme des boîtes de chocolat et se referment comme des coffrets à bijoux. »
Ah, c'est très beau.
C'est bien senti, je trouve.
Ah, ça dépend des livres. Hein. Dis donc, non, Mireille. On regrette de les avoir. Bon alors, un autre extrait musical, on va vous passer bien... La maîtresse d'école, donc chantée par Maxime Le Forestier, est donc une chanson de...
De Brassens, posthume comme on dit, parce que Brassens n'a pas eu le temps d'enregistrer cette chanson.
Voilà, tout à fait.
À l'école où nous avons appris l'ABC, la maîtresse avait des méthodes avancées, comme il fut doux le temps bien éphémère, hélas. Où cette bonne fée régna sur notre classe, régna sur notre classe. Avant elle, nous étions tous des paresseux, des lèvres nés, des cancres, des crétins crasseux, en travaillant exclusivement que pour nous. Les marchands de bonnets d'âne étaient sur les genoux, étaient sur les genoux. La maîtresse avait des méthodes avancées. Au premier de la classe, elle promit un baiser. Un baiser pour de bon, un baiser libertin. Un baiser sur la bouche, enfin bref, un patin. Enfin bref, un patin. Au pupitre d'alors, quelque chose changea. L'école buissonnière eut plus jamais un chat. Et les pauvres marchands de bonnets d'âne craquent. Connurent tout à coup la faillite, le crack, la faillite, le crack. Lorsque le proviseur, à la fin de l'année, nous lut les résultats, il fut bien étonné. La maîtresse, elle rougit comme un coquelicot, car nous étions tous pris d'excellence ex-éco, d'excellence ex-éco. À la récréation, la bonne fée se mit en devoir de tenir ce qu'elle avait promis. Et comme elle embrassa 40 lauréats, jusqu'à une heure indue, la séance dura, la séance dura. Ce système, bien sûr, ne fut jamais admis par l'imbécile alors recteur d'académie. De l'école en dépit de son beau palmarès, on chassa pour toujours notre chère maîtresse, notre chère maîtresse. Le cancre fit alors sa réapparition, le forant aimé redevenu l'exception. À la fin de l'année suivante, quel fiasco, nous étions tous derniers de la classe ex-éco, de la classe ex-éco. À l'école où nous avons appris l'ABC, la maîtresse avait des méthodes avancées. Comme il fut doux le temps, bien éphémère, hélas, où cette bonne fée régna sur notre classe, régna sur notre classe.
Dans un parc. Des moutons. Moutons. Voyons, mon enfant, je dis moutons étaient. Étaient. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas qu'un mouton. Il y avait plusieurs moutons.
Voilà un maître qui a de l'empathie
pour ses élèves.
Des bon moutons
maître, bon maître.
Et le NT de Etent. Alors moi, je voulais juste redire un petit mot quand même sur ce qu'on a entendu précédemment, parce qu'on en parlait entre nous, là, hors micro, mais je trouve que les interprétations de Maxime Le Forestier concernant Brassens vont rester une référence. Parce que, d'abord parce qu'il a tout réenregistré, toutes les chansons de Brassens, y compris les posthumes que Brassens avait écrites mais n'avait pas eu le temps de chanter. Aussi parce que je l'ai vu en concert et qu'il faisait un travail admirable d'interprète, à tel point de demander au public « Quelle chanson voulez-vous ?» Il avait un énorme classeur sur son pupitre et finalement il chantait à la demande. Ça veut dire en puisant dans un panel de plus de 300 chansons à peu près. Donc je pense que Le Forestier fera date parce qu'il nous permet de continuer à écouter Brassens avec grand plaisir.
Et donc, Dan, tu voulais pas redire un petit mot sur
Topaz, on en parlait ensemble. Hein, on est d'accord pour dire que l'interprétation de Louis Jouvet était quand même intéressante. Mais il y a eu Fernandel aussi.
Voilà, il y en avait un autre, mais j'ai oublié le nom. Mais,
d'autres plus
voilà,
récents.
Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que moi, j'ai un petit faible pour Louis Jouvet. Oui, j'aime bien sa voix.
Oui, une voix grave.
Des moutons.
Donc... Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va vous lire quelques dictées. Mais avant chaque dictée, bien sûr, hein, il y avait quelques conseils, qui sont préconisés. Donc, l'instituteur, le maître, donnait avant. Donc, alors, c'était évidemment de dire si c'était un homme ou une femme qui s'exprime, parce que bon,
ça change tout pour les accords.
Voilà, pour les accords, effectivement. Alors, c'était d'écrire au tableau aussi les noms propres, parce que c'est vrai que les noms propres, ça peut s'écrire Drey différemment, un même nom peut avoir plusieurs règles, orthographes, oui, oui. Voilà. Même les prénoms d'ailleurs, hein, pour plusieurs orthographes. Et puis d'abord de lire le texte, hein, sans ponctuation, voilà,
oui, pour saisir le sens global, voilà, pour, je pense. Oui.
Voilà. Et puis de dicter, bien sûr, avec la ponctuation et les passages à la ligne. Hein. C'est-à-dire qu'on va dire, bah, y a une virgule, un point-virgule, un point à la ligne. Et puis voilà, donc là, on lit comme ça. Et après, bah, on relit avec la ponctuation, donc en fin de dictée, comme vient de faire tout à l'heure
Pivot.
Bernard Pivot, voilà. Donc là, je vous avais mis que la dernière partie, hein, parce qu'évidemment, dans les dictées, là, avec même Bernard Pivot, voilà, il...
Il dissèque d'abord.
Voilà, ouais, c'est ça. Le texte, hein, donc, voilà.
Bah oui, parce que la ponctuation, j'y pense, si on ne la lit pas, la ponctuation peut changer le sens
de
la phrase et des accords.
Bah oui, oui. Tout à fait, Charmaine. Ah,
bah, une remarque.
La ponctuation, c'est la respiration.
Voilà. Aussi.
Et là, je fais attention à ce que je dis, parce qu'il y a deux professeurs là devant moi. Alors, on va vous proposer peut-être une première dictée, donc, qui est une dictée de certificat de fin d'études, un diplôme qui n'existe plus.
Certificat d'études de 1960.
Voilà, de 1960.
Et on n'a pas l'auteur.
Non, comme j'en ai pas trouvé d'autres, bah, c'est pas grave, on va mettre celle-là. Grave, ouais. Quand même, je pense que l'auteur ne nous en voudra pas.
Voilà, alors la voici. Le soir dont je vous parle, je peux même dire que je m'ennuyais moins que jamais. Non, vraiment, je ne désirais pas que quelque chose arrivât. Et pourtant, voyez-vous, cher monsieur, c'était un beau soir d'automne, encore tiède sur la ville, déjà humide sur la Seine. La nuit venait, le ciel était encore clair à l'ouest, mais s'assombrissait. Les lampadaires brillaient faiblement. Je remontais les quais de la rive gauche vers le pont des Arts. On voyait luire le fleuve entre les boîtes fermées des bouquinistes. Il y avait peu de monde sur les quais. Paris mangeait déjà. Je foulais les feuilles jaunes et poussiéreuses qui rappelaient encore l'été. Le ciel se remplissait peu à peu d'étoiles qu'on apercevait fugitivement en s'éloignant d'un lampadaire vers un autre. Je goûtais le silence revenu, la douceur du soir. Paris vide. J'étais content. Un peu nostalgique, hein, comme texte. Et puis, il y a quand même une majorité d'imparfaits, mais il commence quand même avec « Je ne désirais pas que quelque chose arrivât ». On a un bel imparfait du subjonctif, avec l'accent grave sur le « a » et le « t ». Hein.
Certificat d'études en 1960, ils avaient un bon niveau.
Costaud, quand même.
Orthographe. Hein.
Oui. Tout à fait.
Voilà, donc oui, puis là, bah, puis Paris est vide, là, avec les Jeux Olympiques, là, fini, voilà, et tout ça, il n'y a plus personne à Paris. Donc, alors là, maintenant, on va vous proposer, donc c'est au brevet des collèges 2011, et du coup, c'est un extrait de Bonjour Tristesse de Françoise Sagan. Alors, je vais vous le lire. Voilà. Le lendemain, je me réveillais parfaitement bien, à peine fatigué, la nuque un peu endolorie par mes excès. Comme tous les matins, le soleil baignait mon lit. Je repoussai mes draps, ôtai ma veste de pyjama et offris mon dos nu au soleil. La joue sur mon bras replié, je voyais au premier plan le grain du drap de toile et, plus loin, sur le carrelage, les hésitations d'une mouche. Le soleil était doux et chaud. Il me semblait qu'il faisait affleurer mes os sous la peau, qu'il prenait un soin spécial à me réchauffer. Je décidai de passer la matinée ainsi, sans bouger. La soirée de la veille se précisait peu à peu dans ma mémoire. Je me souvins ainsi de Madame Webb et de mon altercation avec elle. J'étais accoutumée à ce genre de femmes. Dans ce milieu et à cet âge, elles étaient souvent odieuses à force d'inactivité et de désir de vivre.
Oui, alors là, tout à l'heure, justement, je parlais de la difficulté liée à la conjugaison parce qu'il y avait un imparfait du subjonctif. Mais alors là, on peut dire que toute la difficulté repose constamment sur
le passé simple.
Voilà, un parfait passé simple. Si les élèves n'avaient pas compris que le passé simple était réservé à des actions brèves dans le passé et l'imparfait à des actions plus longues, bah là, il était difficile de ne pas faire de faute. Hein. Je me réveillais parfaitement bien, passé simple. Mais le soleil baignait mon lit, imparfait. C'est assez subtil, hein, quand même. Hein.
4 points par faute en...
Voilà, oui.
Oui, c'est ça. Oui, on avait, il y avait 4 points. On avait vite fait d'avoir 0 quand même.
Hein.
C'était un peu raide. Hein.
Voilà, 5 fois. Bah, c'est pour ça que les échelles de notation après ont donné lieu à ce qu'on a appelé la notation positive.
Oui, pour encourager.
Pour encourager. Parce que l'élève qui faisait 20 fautes en début d'année scolaire et qui n'en faisait plus que 6 ou 7 en fin d'année pouvait avoir toujours eu quand même 0.
Bah, oui,
donc
oui.
Son niveau de progression.
Voire moins que 0.
Voire moins. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé des modes de dictée où on utilisait ce qu'on a appelé la notation positive, ça se fait toujours, en divisant, par exemple, si on note l'élève sur 10, en divisant le texte en 10 segments, en s'arrangeant pour que certains segments soient très faciles, avec juste un nom commun, par exemple, pour être sûr qu'il n'y ait pas de 0.
Oui.
Ce qui fait que bah là, on part avec le capital de points. Si on se trompe sur un segment, même si on fait 3 fautes sur un segment, ça n'enlève qu'un point.
Oui. Hein,
on a divisé le texte, par exemple, en 10, comme je disais. Oui. Mais dans chaque segment, on peut avoir plusieurs mots et on coule moins vite vers le 0.
Ça restait encourageant.
Voilà. Et puis, il y a toutes sortes d'autres procédés, comme l'autodictée, la dictée de mots, par exemple, les 10 mots de vocabulaire à apprendre à la maison et à restituer le matin venu, ou la phrase à apprendre par cœur. Et à restituer la phrase du jour, je crois que ça se fait toujours, toutes ces choses-là. L'autodictée, ça s'appelle autodictée, quand c'est appris par cœur et restitué. Quoi.
C'est vrai que ça, il y a moins d'angoisse. Quoi.
Voilà. Parce que là, nous, on est dans les dictées.
Moi, je me rappelle que c'était quand même 4 points, hein, la faute. Il y avait les fautes à 2 points.
Les fautes de conjugaison, d'accord.
Corrigées au stylo rouge.
Pour rouge, surtout.
Donc, ça traumatise un peu plus.
Voilà, on avait une page toute rouge qui nous revenait. Qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, moi, j'avais mon père qui était instituteur. Donc, il s'asseyait sur mon pupitre.
Comme ça, tu pouvais voir le texte, non?
Non, pas du tout, parce qu'il avait la règle. Ah, tu sais, et à chaque faute, pop, un petit coup de règle sur les doigts.
Ça marche, Pavlov. Hein.
Voilà, mais c'est vrai que j'en fais encore quelques fautes, mais beaucoup moins. Mais bon,
On s'en remet. Lentement, mais... Alors, Dominique, toi, on va passer à 2013.
Oui,
hein, le brevet.
Le brevet 2013. De Chateaubriand. Le calme morne du château était augmenté par l'humeur taciturne et insociable de mon père. Au lieu de resserrer sa famille et ses gens autour de lui, il les avait dispersés à toutes les aires de vent de l'édifice. Sa chambre à coucher était placée dans la petite tour de l'est et son cabinet dans la petite tour de l'ouest. Mon père se levait à 4 heures du matin, hiver comme été. Il venait dans la cour intérieure appeler et éveiller son valet de chambre à l'entrée de l'escalier de la tourelle. On lui apportait un peu de café à 5 heures. Il travaillait ensuite dans son cabinet jusqu'à midi. Ma mère et ma sœur déjeunaient chacune dans leur chambre à 8 heures du matin. Je n'avais aucune heure fixe, ni pour me lever, ni pour déjeuner. J'étais censé étudier jusqu'à midi. La plupart du temps, je ne faisais rien. À 11h30, on sonnait le dîner, que l'on servait à midi. François-René de Chateaubriand, Mémoire d'outre-tombe.
Je constate quand même qu'on est toujours dans les imparfaits. Hein.
Oui.
Hein, je ne sais pas si c'est vraiment une récurrence qui pourrait s'observer de manière plus large, mais quant aux accords, ils sont toujours quand même assez difficiles. Alors aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe, puisque les accords, maintenant...
Ah oui.
On dit parfois que c'est le dernier mot placé avant le verbe et son participe passé qui compte, mais là il y a les accords classiques à faire, quoi.
On peut voir que Chateaubriand était très bien logé et qu'ils avaient beaucoup de place
dans voilà. ce château. Puis qu'il avait visiblement beaucoup plus de liberté que sa sœur, qu'il devait quand même se lever tôt le matin. Et que lui avait... Je ne sais pas ce qu'il faisait, son père, d'ailleurs, Chateaubriand.
Je ne sais pas. Il faudrait qu'on étudie ça.
Bon. Enfin, voilà. Mais c'est vrai qu'il a, il a écrit de très beaux textes, Chateaubriand.
Ah oui, les mémoires d'outre-tombe. Hein, c'est d'ailleurs d'où est extrait ce texte. Alors, on passe après à 2016.
Voilà, brevet des collèges 2016.
Alors 2016, les auditeurs ne peuvent pas le voir, mais moi je fais un premier constat.
C'est de plus en plus court.
C'est de plus en plus court. Là, on est sur un extrait de La promesse de l'aube de Romain Gary, très bon écrivain, avec un texte plus court.
Mais un très beau livre, La promesse de l'aube.
Ah, très beau. Il y a eu d'ailleurs toute une série d'émissions durant tout l'été, là, sur France Inter le matin. Il y avait une petite chronique le matin qui retraçait un peu toute l'aventure littéraire et la vie de Romain Gary.
Ah.
Ça doit pouvoir se réécouter en podcast.
Ah oui, en podcast.
La voici donc. Après le spectacle, ma mère, encore bouleversée par les applaudissements et le visage ruisselant de larmes, m'emmena manger des gâteaux dans une pâtisserie. Elle avait encore l'habitude de me tenir par la main lorsque nous marchions dans la rue, et comme j'avais déjà 11 ans et demi, je trouvais cela terriblement gênant. Je tâchais toujours de dégager poliment ma main sous quelque prétexte plausible, et j'oubliais ensuite de la lui rendre, mais ma mère la reprenait toujours fermement dans la sienne. On est toujours dans les imparfaits, hein.
Oui.
Avec cette mère envahissante un peu tout au long de La promesse de l'aube, il explique que sa mère avait projeté tout son avenir.
Oui, vraiment. Ah, c'était... Oui.
Tu seras ambassadeur, mon fils.
Voilà, et donc c'est difficile voilà, de...
Et là, je pense, je trouve, hein, par rapport à ce qui a été lu précédemment, il me semble qu'il y a moins de difficultés. Hein, d'un point de vue, au niveau des accords, c'est quand même c'est plus simple.
Bah oui, les élèves. Bah, d'abord, il y a moins de dictées quand même, non ? Ça, c'est moins.
Ça se fait encore,
peut-être.
Ouais, ça se fait encore.
Ça se fait encore. Hein.
Mmh. Bon, bah voilà.
Voilà, alors, bah, on peut dire peut-être un petit mot sur les. Nous qui avons connu le bled.
Ah oui, Édouard.
Le bled, Édouard et Odette, bled. Moi, j'ai juste à vous lire, puisque c'est amusant.
C'est vrai, j'en ai retrouvé un dans ma bibliothèque. J'ai fait du tri cet été.
Les bled. Et les bécherelles qui ont toujours
aussi.
Cours hein, dans
avec
les écoles.
Avec la grand-mère et tout. Bah,
alors, oui. Le bécherel, il date de 1842. Hein.
Ah, oui.
Louis-Nicolas Bécherel, publié en 1842 le dictionnaire des 8000 verbes usuels de la langue française. Le bécherel, il est toujours édité chez Attier. Donc finalement, ils étaient complémentaires au début. Hein. Le bécherel, c'était les verbes, et le bled, c'était sur toutes les règles d'orthographe, orthographe participe, orthographe grammaticale. Bon, depuis, ils ont élargi, chacun s'est élargi sur les diverses matières. Mais moi, j'aime bien la préface du bled, première édition de 1947, qui est très courte, que je vais vous lire. À partir du moment où l'enfant aura acquis une orthographe spontanément, automatiquement correcte, la faculté d'attention sera libérée d'une besogne absorbante et pourra être employée à l'étude véritable et fructueuse de la langue. Bien mettre l'orthographe, c'est se préparer à bien penser. Édouard et Odette.
Odette et Édouard.
Et Édouard Bled. C'est quand même bien dit. Hein.
Oui, c'est bien dit.
Bah, d'avoir les idées en place, quoi.
Voilà. Ce n'est pas tant que ça, la science des ânes, finalement.
Bon, ben bah voilà. Alors, il nous reste encore un peu de temps. On n'avait pas forcément prévu d'autres choses, mais j'ai un petit cahier, là, qui s'intitule « Cahier de dictée pour adultes qui pensent que leur orthographe est parfaite et qui n'ont pas peur des surprises. » Donc, il y a tout un tas de textes. Alors, il y a même des textes avec des fautes. Et puis, il faut donc...
Corriger
les fautes. Et il y a d'autres textes, avec... Ou je sais plus, alors il faut refaire.
C'est intéressant, c'est édité chez qui? Tu peux peut-être nous donner les références.
C'est Langue française hors série et. Je sais pas, c'est tout ce qu'il y a de marqué. Attends, j'ouvre le truc.
Ça vient d'un magazine peut-être?
Bah ouais. Et ESI, 100 rue Petit à Paris.
Oui, c'est un petit éditeur.
Ouais. Donc voilà, je sais pas, on peut peut-être vous lire une ou deux, une dictée.
Tu vas nous faire la dictée.
Voilà, je tombe juste sur un texte de Prosper Mérimée, dans Colomba. Alors, je vais vous le lire. C'était peut-être la première fois qu'un désir manifesté par le colonel eut obtenu l'approbation de sa fille. Enchanté de cette rencontre inattendue, il eut pourtant le bon sens de faire quelques objections pour irriter l'heureux caprice de Miss Lydia. En vain, il parla de la sauvagerie du pays et de la difficulté pour une femme d'y voyager. Elle ne craignait rien. Elle aimait par-dessus tout voyager à chevaux. Elle se faisait une fête de coucher au bivouac. Elle menaçait d'aller en Asie mineure. Bref, elle avait réponse à tout, car jamais Anglaise n'avait été en Corse, donc elle devait y aller. Et quel bonheur, de retour dans St. James Place, de montrer son album. « Pourquoi donc, ma chère, passez-vous ce charmant dessin ?»« Oh, ce n'est rien, c'est un croquis que j'ai fait d'après un fameux bandit corse qui nous a servi de guide. Comment vous avez été en Corse ?» Les bateaux à vapeur n'existant point encore entre la France et la Corse, on s'enquit d'un navire en partance pour l'île que Miss Lydia se proposait de découvrir. Dès le jour même, le colonel écrivit à Paris pour décommander l'appartement qui devait le recevoir et fit marcher avec le patron d'une goélette corse qui allait faire voile pour Ajaccio. Il y avait deux chambres telles quelles. On embarqua des provisions. Le patron jura qu'un vieux chien... ça doit pas être ça. Alors, le patron jura qu'un vieux sien matelot était un cuisinier estimable et n'avait pas son pareil pour la bouillabaisse. Voilà, à la bouille, c'est marqué bouille et abaisse comme une abaisse.
Oh là là, là c'est... Mais c'est très long, hein, parce qu'on se regardait avec Dominique.
C'est très long et c'est difficile.
Long et difficile. Hein.
Voilà, c'est ça. Alors, excusez, parce que c'est écrit en italique et en tout petit. Je suis un peu miro et j'avais un peu de mal. Alors,
encore beaucoup d'imparfaits, voilà. Plus que parfaits, une fois de plus. Hein.
Donc, je ne sais pas, je vous passe le petit cahier si vous voulez.
Là, on était dans la sauvagerie corse, si j'ai bien compris. Non, ce sont de longs textes, hein, quand même.
Oui, c'est une unité très longue. Hein.
Mais c'était long aussi que nous, quand on était plus jeunes. Hein.
C'était assez long.
C'était, hein,
ça nous semblait long.
Voilà, je ne sais pas, les dictées pour le certificat d'études, par exemple. Hein,
oui, mais elles sont lues lentement, oui, donc ça exagère en plus l'impression de longueur. Alors Dominique aurait eu une petite perle à nous lire pour conclure.
Andersen, les contes d'Andersen.
On change de registre.
Si vous voulez, je vous la lis.
Voilà, allez, on t'écoute.
Les adieux. Et maintenant, Rudy avait 8 ans. Le frère de son père, qui demeurait au-delà des monts, dans la vallée du Rhône, demanda à voir l'enfant pour lui apprendre à faire son chemin dans le monde. Le grand-père reconnut que ce serait avantageux pour Rudy et il donna son consentement. Rudy allait donc partir. Il y en avait d'autres que le grand-père qui étaient là pour lui dire adieu. Il y avait d'abord Ajola, le vieux chien. « Ton père, dit-il, était conducteur et moi, j'étais le chien de la diligence. » Nous avons gravi les montagnes, nous les avons descendues des milliers de fois. Aussi, je connais hommes et chiens au-delà des monts. Je ne cause plus beaucoup, mais comme nous n'allons plus nous voir de longtemps, je m'en vais parler un peu plus que d'habitude. Je te demanderai donc pourquoi il m'a fallu si souvent galoper à côté de la voiture, n'ayant à ronger que mes ennuis. Je ne puis le comprendre, toi non plus, je pense. C'est qu'en effet, je l'ai maintenant découvert, les choses dans ce monde ne sont reconnaissablement disposées ni pour les chiens, ni pour les hommes. J'avais beau bâiller, beau aboyer pour marquer combien j'étais fatigué, on ne me donnait jamais place dans la diligence. Jamais on ne me prenait sur les genoux. Je te dis tout cela pour que tu apprennes à connaître le monde dans lequel tu vas entrer. Tel fut le discours du brave Ajola. Ajola était un chien.
Ouais, pareil, hein, quelques difficultés quand même.
Ah, oui, oui.
Ah, donc on précise que ce sont bien des dictées pour adultes, hein, quand même. Quand même. Alors, quant à moi, bah, comme on en lit une chacun, si j'ai
voilà,
bien compris.
Voilà, c'est hein. Ça, bah oui, on va...
Donc, Dominique Mireille, prenez vos stylos, moi je la fais réellement.
Allez, avec les points, les virgules, ah, voilà. Allez, bah, allez fais-nous ça. Là.
Alors, Émile Zola, Germinal,
ah,
hein,
oui, oui. Ah,
bah, oui. Seul dans la nuit. Dans la plaine rase, virgule, sous la nuit sans étoiles, virgule, d'une obscurité et d'une épaisseur d'encre, virgule, un homme suivait seul la grande route de Marchienne à Montsou, virgule, 10 kilomètres de pavés coupant tout droit, virgule, à travers les champs de betteraves, point. Bah déjà, cette première phrase.
Il s'appelle Étienne, peut-être, ce monsieur.
Phrase longue.
Devant lui, virgule, il ne voyait même pas le sol noir, virgule, et il n'avait la sensation de l'immense horizon plat que par les souffles du vent de mars, virgule, des rafales larges comme sur une mer, virgule, glacé d'avoir balayé des lieux de marais et de terre nue. Point. Aucune ombre d'arbre ne tachait le ciel, virgule. Le pavé se déroulait avec la rectitude d'une jetée, virgule, au milieu de l'embrun aveuglant des ténèbres, point. L'homme marchait d'un pas allongé, virgule, grelottant sous le coton aminci de sa veste et de son pantalon de velours, point. Un petit paquet, virgule, noué dans un mouchoir à carreaux, virgule, le gênait beaucoup, point, virgule, et il le serrait contre ses flancs, virgule, tantôt d'un coude, virgule, tantôt de l'autre, virgule, pour glisser au fond de ses poches les deux mains à la fois, virgule, des mains gourdes que les lanières du vent d'est faisaient saigner, point. Une seule idée occupait sa tête vide d'ouvrier sans travail et sans gîte, virgule, l'espoir que le froid serait moins vif après le lever du jour, point. Depuis une heure, virgule, il avançait ainsi, virgule, lorsque sur la gauche, à 2 kilomètres de Montsou, virgule, il aperçut des feux rouges, virgule, 3 brasiers brûlants au plein air, virgule, et comme suspendus, point. D'abord il hésita, virgule, pris de crainte, point, virgule, puis, virgule, il ne put résister au besoin douloureux de se chauffer un instant les mains, point. Bah, celle-là, elle est aussi...
Oui, elle est difficile.
Hein, quand même
elle
assez difficile.
Pas facile. Hein.
Et on voit la,
avec
long,
des, la longueur,
la
des,
longueur
phrases,
des phrases
face à ces Zola.
De Zola, voilà. Avec un emploi paysage, expert oui. De la ponctuation.
Oui, oui. Paysage glaçant et glacé.
Voilà, je ne sais pas si ça va donner aux auditeurs l'envie de faire des dictées. Mais... pas sûr.
Bon. Bon, en tout cas, voilà, pour cette reprise, voilà. Quelques petites...
Studieuses.
Studieuses, voilà. Alors, pour les prochaines émissions, alors on va vous proposer un auteur hongrois dont le nom est assez difficile à prononcer, puisqu'il s'appelle... alors, je ne sais pas évidemment si j'ai la bonne prononciation. Hein. Alors, c'est Dezo Kostolany, voilà.
Il va falloir étudier ça.
Oui, voilà, c'est ça. On va étudier la. Je ne connais pas de hongrois dans mon entourage pour qui nous pour donne la prononciation. Ouais. Alors, on va vous lire quelques nouvelles qui sont savoureuses. Voilà. Enfin, je me suis délectée à lire ce recueil de nouvelles dont le titre c'est Le traducteur kleptomane, donc qui est la première nouvelle en fait du livre. Et Et voilà, si.
Et tu l'as découvert.
Par hasard, que tu sais, je flâne dans les librairies.
Tu flânes littérairement parlant.
Voilà, à la recherche de perles. Alors, des fois, j'achète des trucs et puis il n'y a rien qui me plaît. Et puis, d'autres fois, voilà, on tombe sur des.
Sur des petites
merveilles.
C'est bien
des pépites.
De s'adonner à des errances comme ça, livresques.
Voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait un peu le vide dans ma bibliothèque parce qu'il y avait beaucoup quand même là. Alors. Donc voilà, et puis alors après, qu'est-ce que je vous ai prévu? On aura une émission sur les tempêtes.
Ah, très bien.
Voilà, donc toutes les tempêtes.
Tempêtes d'automne qui vont arriver.
Voilà, c'est ça.
Sacré sujet d'écriture.
Voilà, donc des extraits, hein, bien sûr, de différents auteurs. Et puis, après, je ne sais pas.
Après, surprise, on ne va pas non plus divulguer comme
on,
ça.
On va retomber après dans les histoires de Noël et
absolument.
Tout ça.
Donc, et on rappelle que l'émission passe le deuxième vendredi de chaque mois à 12h30.
12h30.
Mais nous vous conseillons le podcast. Hein. On va sur Principe Actif, sur le site. Tout en haut, dans le bandeau, il y a une rubrique « Toutes les émissions ». On va à la lettre U et on clique sur un auteur, une nouvelle, et on a en général les dernières émissions précédant l'actuelle. Voilà.
Voilà, les 3-4 dernières.
Ça, c'est de la pub.
Voilà. Merci, Philippe. Ouais. Merci. Bon, en tout cas, merci à vous deux de participer si gentiment à ces émissions.
Je vais faire une dictée en rentrant chez moi.
Et de me soutenir. Voilà.
Alors, à bientôt.
Donc bientôt. À bientôt sur Principe Actif.
Un auteur, une nouvelle.
Des histoires courtes racontées par des amoureux des mots.